Baptême du feu pour la nouvelle ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou a entamé sa visite sur le territoire. Un programme chargé, fait de cérémonies et de rencontres institutionnelles pour ce premier jour. En marge de cette visite ministérielle, le Rassemblement national a présenté ce matin son programme provincial 2025. Demain, en ce 11 novembre, nous commémorerons le 107e anniversaire de l'armistice de 1918. Comme à l'accoutumée, la cérémonie de Païta a eu lieu la veille de l'événement. Et de nombreux Calédoniens profitent d'un week-end de 4 jours, l'occasion de partir en brousse ou d'aller à la plage alors que le soleil est au rendez-vous. Le sport et du football, déception pour les Calédoniens éliminés de la Coupe du Monde U17 après leur lourde défaite 16-0, c'était face au Maroc. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Un journal largement consacré au début de la visite de la ministre des Outre-mer sur le territoire. Et Naïma Moutchou n'a pas fait de déclaration publique au premier jour de sa visite en Nouvelle-Calédonie. Mais lors d'une prise de parole, lors de la coutume d'accueil au Sénat coutumier, la ministre des Outre-mer a rappelé dans quel état d'esprit elle entamait cette visite. Écoutez, avant de répondre, c'est dans cet état d'esprit que je suis venue aujourd'hui. Ce sera aussi ma méthode pour les jours à venir, a-t-elle déclaré. Peu avant son départ de Paris, elle avait manifesté sa volonté d'aller sur le terrain, de retisser la confiance et de créer les conditions pour éviter toute montée en tension et toute violence. Rappelons que la ministre des Outre-mer reste jusqu'à vendredi en Nouvelle-Calédonie et qu'elle se rendra dans les trois provinces. Cette première journée qui lui a permis de rencontrer dans l'après-midi plusieurs responsables institutionnels a débuté par un dépôt de gerbes place Birakeim. Naïma Moutchou a pris le temps de saluer l'ensemble du rang protocolaire. Elle s'est ensuite rendue au Sénat coutumier. Charles Coulson.
Je suis très émue d'être ici dans une institution unique au sein de la République. C'est ce qu'a dit Naïma Moutchou, debout devant la natte sur laquelle ses accompagnateurs ont déposé pots de miel, manou, feuilles de cordiline et quelques billets. Sa première coutume en tant que ministre des Outre-mer et vous l'avez dit également, sa première prise de parole. La ministre a rappelé pour l'occasion ses origines marocaines. Un pays où la tradition et la coutume sont aussi très importantes. Elle a d'ailleurs ramené avec elle un objet représentant l'état d'esprit avec lequel elle a engagé les discussions en Calédonie, du thé vert à la menthe.
Je sais que vous attendez un engagement fort de l'État. Je l'entends. Et donc j'ai voulu venir avec quelque chose de très symbolique pour moi, qui est du thé. Du thé à la menthe, venu du Maroc. C'est plus qu'une boisson, même si ça rafraîchit l'été, c'est plus qu'une boisson. Le thé à la menthe au Maroc, c'est ce qu'on partage autour de la natte. Vous voyez, c'est un moment, un geste d'hospitalité. Et c'est surtout un temps où quand on est assis ensemble, on écoute avant de répondre. C'est dans cet état d'esprit que je suis venue aujourd'hui aussi. Vous écoutez avant de répondre.
C'est également au cours de cette coutume de bienvenue que Naïma Moutchou a évoqué les discussions concernant le processus de refondation de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour parler des sujets d'avenir, il faut aussi parler du passé, a-t-elle dit.
Et j'ai en mémoire ce qu'a dit le président de la République en 2018. Il avait parlé des ombres de la période coloniale qui ont meurtri les mémoires. La cour de Nouméa, il a fait beaucoup de choses, mais il n'a pas tout réglé, c'est vrai. Et je crois qu'ensemble, il faut qu'on puisse arriver à dire que les mémoires, elles sont importantes, elles sont primordiales. Et aucune mémoire n'en efface une autre. Il faut les reconnaître à leur place, et c'est ce travail aussi que je suis venue faire. C'est important, la mémoire, pour moi. Rien ne se construit dans l'avenir s'il n'y a pas cette histoire et cette mémoire reconnue à sa juste place. C'est dans cet état d'esprit que je suis venue et que j'espère avancer.
Après la coutume de bienvenue, la ministre des Outre-mer et les sénateurs coutumiers ont entamé une séquence de discussion. Car vous l'avez compris, Naïma Moutchou souhaite d'abord écouter. Les sénateurs l'ont également compris. Ils ont remis sur la table leur proposition d'évolution du statut de la chambre consultative en instance exécutive, mais aussi celle d'une création d'un guichet unique coutumier et social. Le président du Sénat coutumier, Ludovic Boula, a demandé à la ministre d'aller au-delà de l'accord de Bougival.
J'ai alors lui expliqué le fait de notre positionnement par rapport au 25e congrès du pays kanak, c'est d'aller au-delà de Bougival. Parce qu'on leur a fait comprendre que nous, on était présents au sommet et on a vu qu'il n'y avait pas consensus. On a fait comprendre aussi que pendant ce moment-là, nos propositions ont été mises de côté, rien n'a été pris en compte, mais qu'il n'y a pas consensus et que le FNKS qui est un partenaire historique qu'on ne peut pas mettre de côté, n'était pas dans la case. Elle nous a bien stipulé que là, elle est là pour tâter le terrain, pour connaître, parce qu'elle veut que le projet d'accord reparte en discussion. Et l'idée, c'est que d'inviter le FNKS à revenir autour de la table.
Des propos recueillis par Kelinda Boicou, le président du Sénat coutumier a également demandé lors de son discours que l'État maintienne l'irréversibilité du processus de décolonisation.
À l'issue de ces rendez-vous de la matinée, la ministre des Outre-mer a rencontré en tout début d'après-midi le président du gouvernement Alcide Ponga et la présidente du Congrès Velma Falayo avant de se rendre à l'hôtel de la province sud et à la mairie de Nouméa, Lionel Sabot.
Au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Naima Moutchou s'est d'abord entretenu une vingtaine de minutes en tête-à-tête avec Alcide Ponga avant de rencontrer les membres de l'exécutif. Une rencontre et des échanges qui ont duré une quarantaine de minutes. Il s'est agi pour la ministre des Outre-mer de découvrir ses interlocuteurs et de prendre le pouls de la Nouvelle-Calédonie. Écoutez Alcide Ponga, le président du gouvernement.
Elle vient nous rencontrer pour savoir aussi dans quelle situation on est, dans quel état d'esprit aussi on est. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a eu une dernière séance au Congrès où il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites à l'État et sur l'État. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné aussi, on doit se poser et regarder quels sont les enjeux, quels sont les défis qui sont devant nous, tous ensemble, et de poser les choses et de se dire comment est-ce qu'on avance avec l'ensemble des contraintes que l'on a non seulement sur le plan local, mais aussi les contraintes qu'il y a au niveau national. Donc tout ça, ce sont des contraintes qui sont devant nous, qu'on doit prendre en compte pour pouvoir discuter et voir comment est-ce qu'on fait les choses pour le bien de la Nouvelle-Calédonie.
Et à l'issue de ce déplacement au gouvernement, la Nouvelle-Calédonie, la ministre a pris, vous le disiez, Léana, la direction du boulevard Vauban, le congrès de la Nouvelle-Calédonie, pour s'entretenir avec sa présidente, Velma Falayo. Un entretien lors duquel il a été question des mesures prévues pour la Nouvelle-Calédonie dans le cadre du projet de loi de finances, mais aussi du projet de loi constitutionnelle. Velma Falayo.
Madame la ministre a rappelé que l'État compte soutenir la Nouvelle-Calédonie dans le contexte difficile dans lequel nous sommes aujourd'hui. Elle a rappelé que les arbitrages concernant le PLF étaient en cours, mais qu'elle était notamment là pour entendre les besoins que nous avons au pays. Elle a bien conscience que notre situation, notamment budgétaire, est catastrophique et elle compte bien nous y aider, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de mesures concrètes à proposer. Il y aura notamment une discussion avec les partenaires économiques, parce qu'il y aura peut-être des aides ou du soutien. Sur le projet de loi constitutionnelle, je souhaitais savoir si le Congrès serait à un moment donné consulté pour avoir son avis dans le cadre de l'avancement du calendrier. La ministre n'était pas du tout fermée à cette question. Et encore une fois, ce qui en ressort sont des échanges francs. L'État est là pour accompagner la Nouvelle-Calédonie, mais nous devons, nous, les élus du Congrès, prendre aussi des mesures nécessaires. Et là, je parle des réformes.
Naima Moutchou a poursuivi ses entretiens avec la présidente de l'Assemblée de la province sud, Sonia Bakès, entretien lors duquel il a été question de politique et d'économie.
Sur l'aspect politique, on a rappelé évidemment notre ouverture à la discussion avec le FLNKS, mais en rappelant que beaucoup de concessions ont été faites par le camp non indépendantiste, qui lui a fait le travail auprès de la base pour faire accepter cet accord, et que donc il n'est pas question, parce que nous avons fait le travail en amont de le faire accepter, d'avoir encore des concessions faites pour le FLNKS, qui lui ne joue le jeu d'aucun accord. Sur l'aspect économique, j'ai rappelé le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même globalement un consensus de l'ensemble des forces politiques pour dire qu'on est maltraité par Bercy. On a régulièrement des éléments de langage qui sont toujours les mêmes sur le fait que l'État donne à condition de faire des réformes qui sont en fait nécessaires, évidemment, pour la Nouvelle-Calédonie, mais infaisables. Concrètement, il faut redonner du travail aux Calédoniens. Redonner du travail aux Calédoniens, c'est de l'investissement, de l'investissement, de l'investissement et des aides aux entreprises. C'est ce que j'ai demandé. Il y a des choses très concrètes que j'ai demandé pour la province et j'espère que j'aurai des réponses d'ici la fin de la semaine. Et
la dernière étape de cette rencontre avec les responsables institutionnels s'est déroulée à la mairie de Nouméa pendant 45 minutes. La ministre des Outre-mer s'est entretenue avec le maire Sonia Lagarde qui a parlé d'une rencontre constructive.
C'est quelqu'un qui est très à l'écoute, qui a bien intégré notre problème calédonien. Voilà, une réunion constructive dans le sens où on a pu aborder des sujets qui touchent les maires et en particulier la mairie de Nouméa. des questions qui m'interpellent moi, en tout cas, sur l'urbanisme, sur les futurs contrats aussi, sur le fameux effet cliquet qui touche les communes parce qu'il y a de moins en moins d'argent. Alors c'est pas le moment d'aller en réclamer puisque la France est aussi dans une situation extrêmement compliquée. Mais je crois que le rétablissement d'une situation qu'on espère tous pour la Nouvelle-Calédonie et en particulier de vivre en paix appelle demain à ce qu'on revoie un certain nombre de choses et en particulier cet effet cliquet qui correspond au financement des communes. Je crois qu'elle est très animée par un souci de bien faire et elle est à la recherche de ce consensus qu'on espère tous voir demain de façon à ce qu'on vive tous en paix ici, c'est ce que tout le monde souhaite en tout cas.
Et la ministre des Outre-mer qui va terminer sa première journée en Nouvelle-Calédonie en rencontrant dans une demi-heure maintenant les acteurs économiques du territoire, rencontre à partir de 18h30 donc à la résidence du Haut-Commissariat de la République.
Et demain, Naïma Moutchou assistera à la cérémonie commémorative du 11 novembre place Bir Hakeim. Ensuite, la ministre des Outre-mer rencontrera à la résidence du Haut-Commissariat les différents partis politiques pour une journée de bilatéral. Aucun programme officiel n'a été communiqué pour le moment concernant ces rencontres.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, notre question du jour. Dans le contexte politique et économique de la Nouvelle-Calédonie, la visite de la ministre des Outre-mer est-elle, selon vous, décisive? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146.
RRB, il est 17h57.
La suite de l'actualité est politique. Le PALIKA réunissait ce week-end son 50e congrès à Bouraille. Rien n'a filtré des discussions qui se sont poursuivies tard encore hier soir. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, notamment le positionnement du PALIKA vis-à-vis du FLNKS, mais aussi la préparation des prochaines échéances et la campagne de soutien en faveur de l'accord de Bougival. Le PALIKA devrait communiquer dans la semaine sur le résultat de ces discussions. Face à une situation économique qualifiée de catastrophique, le Rassemblement national de Nouvelle-Calédonie présente son programme provincial 2025, un document d'une vingtaine de pages qui présente son diagnostic et ses axes stratégiques pour refonder un pacte de confiance, Elisabeth Noir.
Alain Descombel, le responsable de la Fédération calédonienne du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, part du principe que son parti est le seul à faire des propositions précises qu'il a notamment transmise à Claire Durieux, la directrice de la mission interministérielle. Il estime que c'est un programme qui a vocation à être défendu par une liste citoyenne et non par une liste estampillée Rassemblement national.
C'est pour marquer l'esprit des Calédoniens, pour leur dire que ce programme, qui est un programme qui peut être amendé, mais qui est très important sur le plan économique, ne peut se réaliser que si effectivement nous sommes dans une liste que j'appelle citoyenne, avec des chefs d'entreprise, avec des gens de la société, je dirais des associations et de la société sociale, dont on a besoin pour travailler ensemble et présenter ce programme. Nous sommes maintenant à 6 ou 7 mois des échéances, c'est pas le dernier moment où il faut présenter aux Calédoniens, et expliquer surtout aux Calédoniens que, quelles que soient les décisions statutaires qui auront lieu ou pas, nous sommes dans une situation qui est plus que dramatique et que je ne vois aucun parti politique nous faire des propositions concrètes et que notre objectif à nous, c'était justement d'expliquer aux Calédoniens que nous avons des solutions solides, mais qu'il faut effectivement que l'État s'engage. Et pour l'instant, l'État français ne semble pas beaucoup s'engager sur l'avenir de la Calédonie.
Le programme présenté par le Rassemblement national évoque la relance économique et l'emploi local, la réforme fiscale et l'équité budgétaire, la souveraineté énergétique et industrielle, la défense et la sécurité régionale ou encore la santé, le social et la qualité de vie. Et il estime prioritaire la réflexion sur le nickel.
Tout le monde sait que le nickel est dans une situation dramatique depuis un certain nombre d'années, pas que depuis les événements, et que cette situation nécessite à ce qu'il y ait une vision d'ensemble, je dirais, internationale. À savoir, il faut effectivement que nous ayons un accord avec l'Europe pour avoir des financements, notamment sur la partie énergétique. Ça ne se fera pas sans un EPR qui va coûter plusieurs milliards, puisque quand on est 4 fois plus cher que les concurrents en activité électrique, je vois pas comment on peut s'en sortir. Et si on veut préserver les 20 000 emplois du nickel, qui seront indispensables pour le futur de la Calédonie, on se doit effectivement d'avoir un projet qui soit international, à savoir que l'ensemble des élus de Bruxelles s'y intéressent et que l'État français aussi vienne apporter des financements. Quand on finance les Grands Lacs en Afrique, quand on finance éventuellement Gaza ou l'Ukraine, je pense qu'on a aussi peut-être les moyens, ou dans ce cas-là on fait des priorités, mais il faut que l'État français nous dise exactement ce qu'ils veulent faire de l'avenir de la Calédonie.
Le Rassemblement national demande que l'État s'engage sur des propositions concrètes pour essayer de redresser la Calédonie en affirmant que la relance économique est un préalable à la solution institutionnelle. L'occasion de revenir sur l'attitude des députés du Rassemblement national qui, on le sait, ont voté contre le report des élections provinciales.
Bougival est mort-né, c'est une usine à gaz qui ne fonctionnera pas, donc nous avons voté contre Bougival. En ce qui concerne le dégel du corps électoral, faites-moi la démonstration qu'aujourd'hui ce corps électoral il est accordé à l'ensemble des Calédoniens qui aujourd'hui ne peuvent pas voter, ce qui n'est pas le cas, et rien ne nous dit que malheureusement dans 6 mois, il le sera. Donc nous, notre objectif c'était de faire effectivement des élections à fin janvier, parce que c'est l'amendement qu'on avait posé pour justement revoir l'ensemble du Congrès et avoir peut-être des élus qui soient peut-être plus légitimes que ceux qui ont décidé à signer Bougival.
Et le Rassemblement national espère pouvoir rencontrer la ministre des Outre-mer lors de sa visite en Nouvelle-Calédonie, comme il avait pu s'entretenir à chaque fois avec Manuel Valls.
Merci Elisabeth Noir. 18h passées de 1 minute, une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité sur le territoire. À tout de suite.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est arrivé, mon Duster. Il est
oui,
arrivé.
Oui, papa, je sais que ton nouveau Duster est arrivé.
Découvrez le nouveau Dacia Duster. Un style encore plus baroudeur, un intérieur high-tech, des aides à la conduite de dernière génération et désormais disponible en hybride essence et toujours en diesel. Craquez vous aussi pour le nouveau Dacia Duster et venez profiter d'offres exclusives pendant les portes ouvertes les 14 et 15 novembre au showroom Dacia OPK4. Voir conditions concessions construites dans notre pays. Économisons l'énergie.
Savez-vous que la pièce qui consomme le plus d'énergie est la cuisine ? Pensez à couper l'alimentation de la plaque électrique ou de votre four quelques minutes avant la fin de cuisson, car la chaleur résiduelle permet de terminer la cuisson ou de garder les aliments au chaud.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays. Économisons l'énergie.
D'après vous, qui peut souffrir de mal-être, d'anxiété, de dépression ou d'un autre trouble psychique ? Une amie ? Un collègue ? Un proche ? Un voisin ? Oui, nous tous. Et d'après vous, qui peut écouter celui ou celle qui a besoin d'en parler ? Une amie, un collègue, un proche, un voisin ? Pareil, nous tous. La santé mentale nous concerne tous. Parlons-en, écoutons-nous. Infos et conseils sur santémentaleinfoservice.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Léana Colombo.
Un nouvel accident mortel sur les routes calédoniennes. Un jeune homme de 25 ans, passager avant du véhicule, est décédé hier soir dans le quartier de Val-Suzon à Dumbéa. Il s'agit d'une sortie de route impliquant un seul véhicule avec 3 occupants. Les secours ont été appelés vers 21h30, mais la victime est décédée d'un arrêt cardiovasculaire. Le conducteur était alcoolisé au moment de l'accident et conduisait sans permis. Cet accident porte à 29 le nombre de morts cette année sur nos routes. Dans le reste de l'actualité, les premières cérémonies de commémoration du 11 novembre. C'est en effet demain que nous commémorerons le 107e anniversaire de l'armistice de 1918, Lionel Sabot.
Oui, signature qui mettra fin à 4 ans d'une guerre qui aurait fait plus de 10 millions de morts, civils et militaires. Ce matin, c'est au monument aux morts de la commune de Païta que se sont retrouvées les autorités civiles et militaires pour une cérémonie de dépôt de gerbes, une cérémonie du 11 novembre qui a évolué au fil des années. Aujourd'hui, on ne commémore plus seulement la fin de la Première Guerre mondiale, comme le rappelait Catherine Merckx, la commissaire déléguée à la province sud.
C'est aussi la commémoration de tous les morts pour la France. Et du coup, en cette cérémonie, il reste bien sûr toute l'histoire et toute la commémoration qu'il est important de se rappeler de ce qui s'est passé dans ces années-là, mais aussi un rappel de tous nos combattants morts pour la France, au début du siècle, mais aussi encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous avez entendu, pendant la cérémonie, on nomme tous les morts pour la France de la commune, mais aussi ceux qui sont morts pour la France cette année.
Et sur le rang protocolaire était présent ce matin Yawa Teu, qui représentait le président du gouvernement, Muriel Malfarpaoga, qui représentait la présidente du Congrès, et Christiane Saridjian-Averger, qui représentait la province sud. À présent également le colonel Georges Grandpierre, le commandant de la base aérienne 186, lieutenant Paul Klein de la Tontouta, le colonel Le Sage, qui représentait le commandant de la gendarmerie en Nouvelle-Calédonie, et Jean-Marie Firmin-Guillon, le vice-président de l'association des anciens combattants de Païta, présente également évidemment Marilyn D'Arcangelo, le maire de Païta, qui a longuement salué les élèves des classes de défense présents à cette cérémonie.
Pour les jeunes, à l'attention des jeunes, il faut se souvenir de la guerre pour apprécier la paix, se souvenir de la désunion pour apprécier l'unité, que cette guerre fasse qu'on puisse vivre pour un avenir plus serein, j'ai envie de dire, et qu'il leur ressemble et qu'on leur laisse quelque chose de positif après nous. Hein.
Et j'ajoute qu'au cours de cette cérémonie, le lieutenant Nicolas Cotteret de la brigade de Païta a été décoré de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile d'argent, et l'adjudant Félix, également de la brigade de Païta, décoré de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile d'argent. Décoration pour l'engagement exemplaire de ces deux hommes lors des émeutes insurrectionnelles de 2024.
Et d'autres cérémonies seront organisées demain à 8h à Nouméa. La cérémonie du 11 novembre sera présidée par la ministre des Outre-mer et se déroulera place Bir Hakeim. Cérémonie également à Lifou à 8h30, à 9h30 à Farino, à 11h à Pointe-Bout, à 11h30 à Bouloupari. Demain après-midi, des cérémonies seront organisées à Dumbéa et à la fois à 16h. Au Mont d'Or, la cérémonie de dépôt de gerbe aura lieu place des Accords à 17h30. Le 11 novembre étant un jour férié, de nombreux Calédoniens font le pont durant 4 jours. L'occasion de se rendre à la plage, par exemple, et de profiter du temps solaire. L'Ansvata était l'endroit idéal pour passer du temps en famille ou entre amis.
Alors on est venu pour faire sortir les petits, ils avaient besoin de prendre l'air et on profite un peu de la chaleur qui s'installe un peu. Je me suis baignée, elle est fraîche l'eau, il faut venir baigner.
Je suis à la retraite, le plus beau métier du monde, tranquille, alors j'en profite.
On faisait rien à la maison, du coup avec les copains on a décidé de sortir, passer un peu de bon temps à la plage. Comme il fait beau, on profite. Hein.
J'en profite, j'ai un temps mort. J'avais d'autres occupations auparavant et là je viens profiter, il y a un peu de vent, il y a l'ombre, un peu comme tout le monde, on vient ici profiter.
Ce qui est agréable sur cette promenade, c'est les gens que l'on rencontre. Vous voyez, c'est un mélange des Mélanésiens, des Wallisiens et nous, et puis voilà, c'est merveilleux.
Ce pont aura également permis aux Calédoniens de profiter d'un week-end en brousse. Demain, le soleil devrait de nouveau être au rendez-vous. Et donc, vous l'avez entendu, le 11 novembre est un jour férié. Demain, sur Radio Rythme Bleu, les journaux d'information seront présentés aux horaires du week-end. Les matinales à 7h au lieu de 6h30 et Infomag à midi au lieu de 11h30. Infosoir sera présenté comme tous les jours à 17h45. Notez qu'il n'y aura pas demain de Vous avez un avis ni d'invité du matin et de billets d'humeur, des rendez-vous que vous retrouverez bien sûr dès mercredi. Passons au sport du football avec la fin de l'aventure pour la sélection calédonienne au Mondial des moins de 17 ans, Lionel Sabot.
Et pas d'exploit pour la jeune sélection qui quitte la Coupe du Monde à Doha sur une très lourde défaite contre le Maroc. 16 buts à 0, les Calédoniens se sont rapidement retrouvés en infériorité numérique. À 9 contre 11, ils ont subi la loi des Marocains qui visait une place de meilleur troisième des phases de poule et qui ont battu à cette occasion le record de buts inscrits dans un match de Coupe du Monde des moins de 17 ans. L'heure est au bilan de cette aventure pour Léo Lopez, le sélectionneur calédonien.
On va essayer de retenir le positif, ce qu'on pourra essayer d'améliorer déjà pour les prochaines générations et notamment pour les 2009, depuis la qualification au mois d'août 2024 à Tahiti. Mais on n'a pas pu faire de stage à l'étranger, on n'a pas pu faire encore moins de matchs amicaux internationaux pour les aider à progresser dans la gestion des émotions. On a été constant sur 2 matchs et on a explosé sur 3e match et on sort quand même la tête haute. Nos jeunes ne sont pas du tout habitués à jouer sur cette fréquence-là contre des équipes d'un tel niveau. Les jeunes ont été félicités de partout, que ce soit sur le terrain, que ce soit à l'hôtel, que ce soit dans les réunions qui étaient organisées par la FIFA, que ce soit par les anciens joueurs, ils appellent ça les légendes de la FIFA, qui sont intervenus auprès de nos jeunes pour partager un peu leur expérience. Et ils ont tous été émerveillés par le comportement et par l'éducation et les valeurs que véhiculent nos garçons. Et pour nous, ça, c'est la plus grande des récompenses.
La Calédonie termine dernière de son groupe avec tout de même un match nul contre le Japon, 0-0. Cette défaite doit servir de leçon avant tout pour le futur du football local, selon Gilles Gilles Tavergeux, le président de la Fédération calédonienne.
C'est vraiment là où on touche du doigt le haut niveau, mais également le travail qu'il y a encore à fournir au niveau du territoire, c'est-à-dire dans les clubs, au niveau des comités et au niveau de la sélection. C'est un travail d'ensemble qu'on doit tous fournir pour que nos jeunes s'améliorent et puis que le niveau de notre football progresse et qu'on essaye de se tirer vers le haut, essayer de rivaliser déjà dans la région avec la Nouvelle-Zélande, hein, essayer de les titiller dans les phases finales. Et puis après, le territoire a traversé des moments difficiles et nous, le football, on a continué notre activité parce que on a aussi des priorités par rapport à la FIFA et l'OFC. On a 21 ans d'existence au niveau de la FIFA et se retrouver dans ces phases finales, c'est très important, mais aussi très valorisant. Et ça démontre aussi tout le travail qui reste à faire et puis que les clubs, les entraîneurs, les arbitres et l'ensemble des bénévoles du football doivent fournir pour que on progresse et puis qu'on essaye de toujours participer à ces grandes compétitions internationales.
Et désormais, les regards sont tournés vers l'équipe A qui tentera à son tour, après les U20 et les U17, d'aller jouer la Coupe du Monde, à condition de sortir son épingle du jeu lors des barrages intercontinentaux. Ce sera au mois de mars 2026.
Hors du territoire, toujours une nouvelle médaille mondiale pour Diane Vaiteani à l'UFE Championship de Bodybuilding à Toronto, au Canada. Elle a terminé vice-championne du monde amateur figure, vice-championne du monde figure pro et vice-championne du monde woman physique pro. 18h11, on passe tout de suite à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre. Alors, si je ne m'abuse, il va faire beau. Hein.
Il va faire beau, en effet. On va avoir un magnifique soleil et ça va continuer comme ça toute la semaine dans les prévisions. Espérons.
Bonne nouvelle.
Espérons. Allez, météo. Alors, du oui, soir.
Voilà. J'attends, j'attends le détail.
Je vous vois pas impatiente d'attendre cette météo de la nuit.
Je suis étourdie.
Cette nuit, du coup, le temps restera agréable et bien dégagé sur la majeure partie du territoire. Quelques nuages persisteront toutefois aux loyautés sur le sud-est et l'île des Pins, accompagnés d'averses parfois modérées. Le vent sera généralement faible et variable, avec par endroits sur la pointe nord et le nord-est un léger souffle de sud autour de 5 à 10 nœuds. Les températures minimales oscilleront entre 18 et 23 degrés. Demain matin, des passages nuageux circuleront sur la pointe sud-est, l'île des Pins et aux Loyautés, où quelques averses sont encore attendues sous un ciel plus chargé. Sur le reste du territoire, le soleil dominera largement dans une atmosphère calme et peu ventée. Et côté marée, pour nos amis les pêcheurs, la mer sera haute ce soir vers 23h07 avant de redescendre en fin de nuit autour de 5h30, puis de remonter en fin de matinée avec un nouveau pic attendu en 12h40.
Eh bien, merci beaucoup, Pierre. Bon, finalement, je vais bientôt prendre votre travail, hein, puisque j'avais raison, il va faire beau. Allez, merci beaucoup Pierre. 18h13, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve à 19h pour le rappel des titres.